France Musique. Musique et moi.
Emmanuel Perraudin.
Priscille Lafitte, France Musique.
Je possède dans ma tête une cinquantaine de photographies me représentant à tous les âges et dans des décors différents. Au bout du compte, cet album personnel que je suis le seul à pouvoir feuilleter, où je chercherais en vain un fait marquant ou significatif, constitue mon histoire la plus secrète et la plus authentique. Le reste, mes succès ou mes malheurs, les événements ou les œuvres qui me dessinent un visage particulier aux yeux du monde, a bien moins de réalité. Je ne savais pas, bien entendu, lorsque je trottais sous la pluie en Bretagne, que le souvenir était là, comme un photographe capricieux, et qu'il enregistrerait ce moment sur sa plaque. J'avais trotté sous d'autres pluies, avec d'autres copains, et rien n'en avait subsisté. La poésie arrive toujours sans crier gare. Je suppose que ce jour-là, elle était accourue de tous les côtés, de l'est avec les Allemands, du sud avec la chaleur, du nord avec les nuages, de l'ouest avec la mer, qu'elle tombait du ciel avec la pluie, qu'elle montait de la terre mouillée et odorante, qu'elle sortait aussi de mon cœur. Toute cette poésie ne pouvait s'évaporer complètement. Elle s'est solidifiée, elle s'est logée dans un coin de ma mémoire, avec les quelques moments insignifiants et précieux que j'avais connus jusqu'alors et qui n'avaient pas davantage péri dans le naufrage quotidien des sentiments, des pensées et des actes. Ces petites choses modèlent plus sûrement et plus profondément une sensibilité et donnent mieux sa saveur propre à une âme que des aventures spectaculaires ou des tempêtes de passion. Je ne savais pas qu'il est parfois plus important d'avoir marché pendant un quart d'heure sous une averse au mois de juin que d'avoir tué 20 personnes dans une bataille mémorable, ou séduit la plus belle femme de France, ou prononcé un beau discours. Les lois du cœur ne sont pas celles de la morale ni celles de l'histoire. Ce qui reste d'une vie, ce sont quelques photos montrant l'homme avec les 10 ou 12 visages qu'il emprunte de la naissance à la mort, tantôt à côté d'une plante verte, tantôt assis sur un fauteuil Louis-Philippard. Que cet homme ait été président d'un conseil d'administration, que son épouse l'ait trompé ou qu'il ait assassiné son père, rien ne le laisse deviner. C'est la plante verte, c'est le fauteuil, ces objets sans importance qui l'accompagneront jusqu'à la fin, jusqu'à l'oubli.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise.
Cette petite musique de la délectation, de l'enivrement, c'est Emmanuel Perraudin qui nous la propose ce matin. Bienvenue à vous sur France Musique, ou je devrais dire plutôt merci de nous accueillir ici à Marseille, dans la bibliothèque du Conservatoire Pierre Barbizet où France Musique a posé ses valises et ses micros tout ce week-end. Nous sommes en public ce matin. Vous êtes cuisinier, chef cuisinier Emmanuel Perraudin, nomade. C'est-à-dire que vous n'avez pas de port d'attache, de cuisine d'attache ?
Non, j'ai pas de port d'attache. J'ai choisi en 2015 de quitter en fait la restauration traditionnelle pour aller interroger comme ça, pour utiliser des grands mots tout de suite, les rapports entre la cuisine et les autres arts.
Marseille est donc votre territoire d'adoption et vous êtes autant, je l'entends, artiste de la table que chef d'orchestre en cuisine, si je comprends bien. Vous aimez rassembler autour d'une assiette les arts, qu'ils soient culinaires, pictoraux, musicaux, et pour reprendre les mots de Jean Dutour que vous nous avez lus pour introduire cet entretien, vous recherchez ces petites choses qui modèlent plus sûrement et plus profondément une sensibilité et donnent mieux sa saveur propre à une âme que des aventures spectaculaires ou des tempêtes de passion. Vous avez découvert la ville, son ouverture vers la mer, avec le même étonnement que Jean Dutour, qui lui décrit la Normandie.
Oui, cette découverte-là, c'est un choc en fait, la découverte de la mer Méditerranée. Parce que moi je ne l'avais jamais vue avant d'arriver ici à 18 ans. Et c'est un emportement, c'est-à-dire que cette ville-là, on l'aime ou on la déteste, elle ne laisse pas la place au juste milieu, pas du tout.
Elle vous enivre de vin, de poésie ou de vertu, pour reprendre les mots de Charles Baudelaire?
Et en fait, c'est aussi une des villes du chaos, c'est-à-dire qu'elle elle nous enivre de tout, en fait, de toutes les émotions, de toutes les sensibilités. On peut s'y enivrer d'amour, d'épices, de vin, évidemment, aussi, de cuisine, de goût. D'ailleurs, d'ici.
Oui, on dit que Marseille, le monde entier, y mijote.
Oui, déjà c'est un point du monde, réellement, au sens où Borges pouvait le définir. C'est même une ville qui peut faire peur par ça, parce que c'est une ville qui est insaisissable et qui pourtant a un résumé incroyable, à la fois de l'état du monde aujourd'hui, mais de l'état même du monde dans le développement de son histoire.
Alors à quoi êtes-vous attentif en cuisine et en musique? Comment savourer une pièce pour violoncelle seule? Avec quoi assaisonner le bandoneon? Nous aurons en cuisine ce matin le grand maître en équilibre des saveurs Jean-Sébastien Bach, mais aussi quelques plats audacieux servis par Britten, Sariao et Charles Ives, des saveurs d'ailleurs avec Piazzolla. Nous convoquerons enfin le très rabelaisien Clément Jacquin. Mais pour commencer, place à la cuisine traditionnelle, mais non moins majestueuse, de Beethoven.
Thank you.
L'ouverture de la 7e symphonie de Beethoven, Poche Sostenuto, par Wilhelm Furtwängler à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Emmanuel Perraudin, vous n'avez pas grandi à Marseille, donc, mais dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Vous avez d'ailleurs écrit un livre de recettes sur le comté, je crois. Est-ce que ces sons restent attachés à des saveurs de l'enfance ?
C'est une vraie question. Non, ces sons-là, ils sont importants. Alors, c'était dans le sud du Jura, dans un petit village qui s'appelle le Val d'Épi. Ils sont importants parce qu'en fait, ils ont déjà le goût de l'interdit. Parce que je viens pour la famille, ma famille paternelle, en fait, la musique était interdite. Elle était vécue comme une distraction, un divertissement qu'il fallait mettre à distance. Ma famille était un peu religieuse, catholique, et elle avait cette vision parfois un peu doloriste de l'approche, en fait, du message de l'évangile. Et du coup, la musique était vraiment quelque chose qu'il fallait pas, enfin, auquel on n'avait pas le droit du tout. À la messe, à la limite. Mais ma mère, qui elle-même venait d'un autre endroit, elle n'était pas de Franche-Comté, elle était née en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, a apporté avec elle ça. Enfin, elle nous a apporté à mon frère et à moi, et aussi bien Mozart que Beethoven. C'était une façon aussi comme ça de s'ancrer. C'est vraiment les choses sur lesquelles on... C'est le son premier, je pense. Avec les cloches des vaches, je pense que c'est le son premier.
Donc la musique est une affaire sérieuse, si je comprends bien.
Oui, ça partait mal, en fait. Ça partait trop mal, en fait, effectivement. C'était un peu chargé.
Est-ce que la cuisine aussi était une affaire sérieuse dans l'enfance?
Alors, chez ses mêmes grands-parents, pas du tout. Elle remplissait une fonction uniquement nourricière. Mais les autres grands-parents, oui, elle avait une fonction plus importante parce qu'ils étaient tous les deux immigrés. Et du coup, c'était aussi une façon de se rattacher à la Pologne et à la Russie d'où ils venaient. Et du coup, il y avait comme ça ce besoin de revivre dans les goûts dans lesquels ils avaient grandi, ils avaient vécu, et qu'ils voulaient encore partager avec nous. On n'avait pas partagé la langue avec eux. Ça aussi, il était interdit, eux. Mais en revanche, on a partagé le goût.
Thank you.
Le prélude de la deuxième suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, Pablo Casals au violoncelle. Ces suites pour violoncelle disent beaucoup avec peu de notes. À croire que le cerveau est capable parfois de reconstituer une harmonie à partir de quelques notes, à partir d'une ligne de chant. Est-ce que cette nudité, cette âpreté vous parle ?
Oui, elle est. C'est un dénuement en fait, un dénuement plein. Quand j'ai découvert ce morceau, moi j'avais 12 ans. Il a fallu aller chercher systématiquement la musique parce que on baignait pas dedans.
La chercher, c'est-à-dire
La chercher grâce au cours de musique du collège. Ça a l'air de rien, mais j'ai eu la chance d'avoir un ou deux profs qui étaient vraiment remarquables. Et puis aller dans les médiathèques. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut paraître bizarre aujourd'hui quand on a accès à tout ce savoir et à toute cette musique partout et tout le temps. Là, il fallait vraiment aller piocher et prendre le vrai risque de découverte pour le coup.
Et vous avez pioché ces suites pour
J'ai pioché ça, en fait, quand on vivait à Clermont-Ferrand. Et je l'ai pioché et vraiment découvert, en plus, et écouté dans une église qui s'appelle Notre-Dame-du-Port, qui est une sorte de chef-d'œuvre de l'art roman. Et je trouvais que c'était tellement bien. Il y a une forme de plénitude comme ça. Et on est toujours sur ces images, en fait, ces photographies, comme ça, ces choses légères et en même temps extrêmement profondes. Il y a de ça, vraiment.
À votre arrivée à Marseille, il y a donc 18 ans,
je 18 crois. Ans.
Y a-t-il un ingrédient comme ce violoncelle, qui a éveillé votre intérêt, qui parle tout seul?
Oui, l'ail et l'huile d'olive, c'est deux. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne supportais ni l'ail ni l'huile d'olive, du tout. Je venais de la cuisine du beurre, et l'ail était vraiment très loin pour moi. Trop. Et là, pour le coup, c'est la découverte. Et là, on n'est pas forcément dans la nudité. On est vraiment dans l'exacerbation de tous les sens, mais c'est ça, le révélateur, ici.
Vous avez travaillé avec cette violoncelliste Noémie Boutin,
oui,
qu'on entend ici dans les suites pour violoncelle,
oui,
cette fois de Benjamin Britten.
Oui. Une magnificence. Oui,
j'ai continué
de travailler avec elle d'ailleurs.
C'est ça ?
Oui. On a créé un spectacle ensemble, qui s'appelle La Rose des Vents. Et c'est une musique de création et bouillabaisse. Et on recommencera à retourner au troisième trimestre 2022.
Alors, comment sonne la bouillabaisse?
Comment sonne la bouillabaisse? Elle sonne polyphonique. Ça, déjà. Et alors, c'est, évidemment, ça peut paraître surprenant quand c'est un violoncelle seul qui joue, mais il y a aussi toute une...
Il y a de la polyphonie dans ce violoncelle.
Oui, oui. Il y en a, vraiment. Et ça sonne corsé, également. Ça sonne un peu déterminé. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le violoncelle, en fait, c'est que c'est une voix qui s'exprime, et une voix qui cherche beaucoup. Et il y a de cela, déjà dans le jeu aussi de Noémie, qui est... Moi, c'est avec elle que j'ai compris, en fait, l'importance de l'interprétation. De l'écouter, par exemple, elle jouer, c'est pas la même chose que l'écouter. J'ai pu en entendre d'autres, en fait, et on n'est pas du tout dans la même intensité. Enfin, c'était surprenant. Surprenant.
Alors, comment est-ce que vous travaillez la cuisine devant un public sans avoir peur de faire crisser votre couteau, de faire tinter une casserole, ou au contraire, vous l'assumez et ça vient perturber ou s'harmoniser avec le violoncelle?
Alors, j'essaie de ne pas faire de bruit quand Noémie joue. Ça... En revanche, oui. Déjà, je ne joue pas, en fait, je cuisine vraiment sur scène. Ce qui est cuisiné doit être mangé. Enfin, la cuisine, en fait, on a construit ce spectacle comme un conte réel où les gens, à la fin, on mange tous ensemble, et on mange ce que j'ai cuisiné avant avec des étudiants, et on mange ensuite, les artistes ou les techniciens mangent la bouillabaisse que j'ai cuisinée sur plateau. Et on va chercher évidemment les sons de la bouillabaisse, les sons des poissons aussi. On raconte des histoires, beaucoup. On rit.
C'est quoi le son du poisson?
Elle le ferait beaucoup mieux que moi. Il faudra venir l'écouter.
Thank you.
Le chœur introductif de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, qui, dès les premières notes, charrie une intensité folle. C'est ici la version enregistrée par Philippe Hervègue à la tête du Collégium Vocal de Gand. Mais il y a quelque chose de presque maritime dans cette partition.
Oui, il y a...
On sent presque le vent.
Le vent, le roulis, le voyage.
Le ressac.
Le ressac. Une sorte de chemin inexorable comme ça. Moi, quand j'écoute cette pièce, je pense au labyrinthe de Chartres. Et cette avancée vers soi-même, vers inexorable à l'intérieur de soi, enfin, là, cette vie qui nous porte aussi, et dans laquelle on est brinque-ballé, tourniboulé, et qu'on avance malgré tout.
Il y a des moments d'intensité comme ça, au travail aussi, en cuisine? Est-ce qu'on a l'impression de manier un peu la vie et la mort?
Alors oui.
D'abattre et de nourrir en même temps.
Oui, oui. Alors ces moments de plénitude-là, les moments de plénitude de ce niveau, de cette intensité-là, ne sont pas forcément, c'est pas quotidien. Ça, c'est une certitude. Et heureusement. En revanche, c'est là que tout joue. Le repas et la cuisine associent de particulier, c'est qu'elles réalisent une sorte de grand écart entre quelque chose qui est extrêmement anodin, quotidien, qui est terriblement éphémère, et terriblement a priori sans importance. Et pourtant, c'est probablement la première part sacrée, en fait, qui se joue là, autour de la table. C'est une histoire que je raconte souvent, donc vous allez y avoir droit aussi. Ce qui a fait de nous, finalement, les animaux que nous fûmes, les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui, c'est le feu. C'est le fait de passer ces aliments au feu. C'est le mythe de Prométhée, en fait. Le fait de les cuisiner, de les transformer, va faire de nous des êtres civilisés. Et c'est autour de cette table-là, comme autour du feu, en fait, qu'on écrit nos histoires, qu'on les vit, qu'on les nourrit. Donc il y a ça aussi à l'œuvre dans le repas. Donc parfois, évidemment, on peut trouver... Il y a une vraie intensité pendant le service. Moi, je suis attaché à la cuisine de service aussi. Alors, c'est ce qui me manque le plus dans ce que je peux mener. Alors, il s'avère que là, jusqu'à la fin du mois de décembre, je suis dans un restaurant qui s'appelle le MX à Marseille. Mais il y a cette intensité-là de autour du feu, justement, qui peut parfois donner de l'impression de moments d'éternité.
La musique aussi est primordiale, et primitive, oui, dans l'humanité. Est-ce que la musique change la perception d'un plat, par exemple?
Alors oui, clairement. Alors on avait montré ça avec Noémie Boutin il y a quelques années, montré comment en fait une pièce de musique peut modifier la dégustation d'un vin, d'un plat, ou même de la perception de la réalité. Si vous écoutez une musique un peu, on va dire, dissonante, il est certain que votre vin vous paraîtra plus acide. Si vous écoutez la pièce qu'on vient d'entendre, il est certain que le vin sera sûrement à son maximum de
riche,
ample. Si vous écoutez une musique du death metal, par exemple, le vin sera quasiment imbuvable, c'est une certitude. C'est surprenant.
Décidément, le violoncelle seul vous poursuit, Emmanuel Perraudin. C'est là une pièce de Kaija Saariaho, un des sept papillons, joué ici par Anssi Karttunen. Arrivez-vous à identifier pourquoi le violoncelle vous parle? Vous l'écoutez dans quelles circonstances, d'ailleurs? Est-ce que vous l'écoutez en cuisine?
Non, je ne l'écoute pas en cuisine parce que j'ai besoin d'être attentif. Je n'ai pas envie que ce soit une nappe sonore, en fait, qui comble un silence. D'ailleurs, bien souvent, il m'arrive d'écouter de la musique quand je cuisine chez moi. Mais pas quand je cuisine dans un cadre professionnel, parce que il y a une vraie musicalité. Le feu qui s'allume, les casseroles qui s'entrechoquent, les fouets qui frottent les culs de poule ou les calottes. Le piano, c'est pas rien. Il y a vraiment de ça qui se joue. Il y a cette similarité aussi, enfin, entre la cuisine et la musique.
Vous y êtes attentif?
Oui. Ouais. Oui, j'essaye vraiment d'y être. On est porté aussi, par les sons que l'on émet, et par les intentions. C'est pas des histoires qu'on raconte. Les intentions ou l'énergie ou les sons, en fait, qu'on met ou qu'on applique ou qui nous entourent au moment où on cuisine, en fait, ont un réel impact, en fait, dans ce qu'on cuisine et dans ce qu'on produit et dans ce qu'on offre.
Là, ce sont à chaque fois des formes miniatures qu'on entend dans ces suites pour violoncelle ou là, dans ces sept papillons. Est-ce que cette succession de pièces courtes aussi a peut-être fait écho chez vous peut-être à une forme de cuisine, le fait d'avoir des pièces dans une même tonalité qui peuvent se répondre, qui se complètent, qui prennent parfois le contre-pied l'un de l'autre. Ça parle de plat?
Oui, ça parle de plat. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, avec les grandes tables, on avait imaginé une série de dîners autour de Picasso à la Vieille Charité il y a quelques années de cela. Et j'avais écrit tous les repas en écoutant des pièces pour violoncelle, notamment les suites pan-britanniques jouées par Noémie Boutin. Et justement, pour ne pas illustrer tout ce que j'essayais de faire, c'était vraiment de rentrer dans les voyages et dans le travail de Picasso et essayer de proposer une interprétation. En tout cas, de libérer le regard qu'on peut avoir quand on va à une exposition. C'était un peu une partie du travail que j'ai fait au tout début. Et du coup, la musique pour cela m'a aidé, parce que c'était un prisme, un biais, qui me permettait également, alors que la musique n'avait a priori pas de rapport, mais qui me permettait justement d'avoir un angle plus neuf, plus intéressant, plus pertinent.
Mais souvent, il y a une tonalité qui unit ces pièces. Est-ce que le terme de tonalité vous parle aussi?
Oui, le terme de tonalité me parle clairement. Parce que effectivement, il y a toutes ces petites histoires qu'on raconte par touche, et puis malgré tout, il y a un autre niveau d'écriture qui permet d'accompagner une écriture plus profonde.
C'est-à-dire qu'il y a des ingrédients qui peuvent servir comme ça
de qui peuvent donner... servir, exactement. Ben, l'huile d'olive et l'ail, par exemple, qui sont des marqueurs pour moi, qu'on retrouve du début jusqu'à la fin.
Même dans un dessert?
Oui, même en dessert, oui. Oui, l'ail en dessert caramélisé, c'est magnifique. Pas tout le temps, mais sur certaines expériences, oui, bien sûr, avec du caramel beurre salé, mon Dieu.
Intéressant. Thank you. enregistrement en public au Grand Rex de Buenos Aires en 1981. Astor Piazzolla au bandoneon, accompagné de Pablo Ziegler au piano, Fernando Suarez Paz au violon, Oscar López Ruiz à la guitare et Hector Consol à la contrebasse.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Le chef cuisinier Emmanuel Perraudin est l'invité de Musique et moi spécial Marseille ce matin. Je vous ai coupé dans votre élan, vous alliez me parler de la sensualité rythmique de ce Piazzolla, j'imagine.
Oui, non, vous allez surtout dire qu'en fait, je pense que la vie est une tragicomédie et je pense que Piazzolla, il dit vraiment très bien. C'est compliqué de parler après cet enregistrement. Enfin, c'est d'une grande, richesse, ça nous enveloppe. Bon.
Est-ce que ça vous donne envie de danser? Est-ce que vous dansez en cuisine? Qu'est-ce que vous faites de votre corps pendant que vous cuisinez?
J'essaie justement de ne pas l'abîmer. Alors, je dis pas que quand on danse, on s'abîme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais on essaie d'être dans les bonnes postures, en fait, pour pouvoir travailler correctement et à être attentif aux gestes aussi.
Donc la bonne posture, c'est un dos droit?
On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Exactement, et d'être le moins courbé possible, ou en tout cas de courber de façon intelligente.
Cette façon qu'a l'orchestre ici d'Astor Piazzolla de jouer avec la mélodie, d'improviser, que chacun reprenne à son tour la ligne de chant, vous parle aussi de cuisine. Est-ce que vous improvisez derrière vos fourneaux?
Oui, c'est la grande force de la cuisine. Pas de la pâtisserie, mais c'est la grande force de la cuisine, en fait. Et cette force-là, moi, on parle souvent, quand on parle de chef de cuisine, on a souvent en tête une idée militaire, alors que c'est avant tout un chef d'orchestre. Tout le métier de cuisinier, c'est d'essayer d'apprendre à faire avec les hasards et à faire avec l'inconnu et l'impromptu. Et c'était tout le but, en fait, d'une cuisine bien rodée, bien organisée, une brigade, un ensemble qui fonctionne, en fait, c'est un ensemble qui sait faire, justement, avec ce qu'il reçoit tous les jours et qui sait improviser avec les hasards qu'il va forcément rencontrer ou les éclats qu'il va forcément rencontrer. Il y a une vraie, pour moi, il y a une analogie évidente.
Une prise de risque, un public qui vous attend.
Oui, on n'a pas le choix, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pas le choix. Il faut être là. Ils sont là, ils ont faim. Ils veulent, de toute façon. Et il faut avoir conscience que c'est nous qui les prenons par la main et qui les emmenons dans notre histoire. Il faut vraiment le vivre, ça. Il y a une analogie réelle entre la cuisine et les autres, enfin, et l'art vivant. C'est vraiment un spectacle vivant aussi. Vrai. On est caché la plupart du temps, mais ça, c'est pas très important. Mais il y a quelque chose de l'intensité, du rapport au présent. Moi, c'est une des choses qui m'a plu tout de suite dans la cuisine, c'est que il y a pas de mensonge, ou alors le mensonge n'est qu'une part du réel et de la vérité. À l'inverse de ce que pouvait dire Hegel. Il y a ce rapport comme ça, direct avec les choses, avec les gens. Et pourtant, dans une perspective temporelle plus vaste, qui, moi, m'a séduit tout de suite dans ce métier.
Thank you. The Unanswered Question, la question sans réponse de Charles Ives, composition de 1908. Ici, Christophe Dornani à la tête de l'orchestre de Cleveland. On entend que Charles Ives confie au vent le soin de reposer cette question sans réponse. Elle vous interroge de quelle façon ?
Moi, elle m'interroge. J'ai découvert ce morceau-là dans une médiathèque, à la médiathèque de Clermont-Ferrand. C'était dans un disque dirigé par John Adams, qui s'appelait American Elegies. Et je découvre ça à la fin des années 90. Et à la fin des années 90, on tourne tous autour dans nos vies. La plupart du temps, on tourne autour d'une question ou d'un événement autour duquel on ne cesse de tourner ou de faire des boucles. Moi, le mien, c'est la mort de mon père quand j'avais 5 ans. Et quand il a choisi de partir, et je découvre une lettre à la fin des années 90, dans laquelle une lettre adressée à un enfant de 5 ans, mais que je découvre uniquement quand j'en ai 18, un peu plus même, dans laquelle il me dit « Deviens ce que je n'ai pas su être, deviens un homme, mon fils ». Et cette découverte-là, cette question-là de qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, en plus il s'avère que conjointement j'avais vécu un tout petit peu en Israël, dans un kibbutz, et que j'avais fait la semaine sainte, on ne sort jamais vraiment des chemins de la religion. Je me retrouve dans cette station de Lecce Homo. Donc là, c'est la première station. C'est Voici l'homme. Et donc, il y avait ces trois événements, en fait, la découverte de la question sans réponse, avec tout le travail incroyable de Ives sur l'invention d'une écriture, ex nihilo, un assureur, mon Dieu. Fou, cet Lecce Homo et cette question, qu'est-ce que c'est que d'être un homme ? Mon Dieu. Et il y a tout ça, en fait, derrière ce morceau-là. Je pense que c'est le morceau qui m'accompagne le plus, et qui est là tous les jours, autant que cette question en fait, tous les jours avec moi, au même titre que peut l'être Piazzolla.
C'est-à-dire que vous écoutez ce morceau tous les jours ?
Oui.
Ou vous l'écoutez rarement ? Oui.
Je l'écoute presque tous les jours, oui.
Pour vous mettre, pour entrer dans un état, pour trouver la réponse ?
Pour ne pas oublier la question.
Martin menoit son pourceau par le quatuor vocal des Clément Jeannequin, mené par le contre-ténor Dominique Viss. C'est une partition donc pour quatre voix solistes, mais qui n'est pas forcément destinée à être donnée en concert, du moins à l'origine. Je pense que c'était plutôt dans un cadre privé pour s'amuser. C'est un jeu vocal.
Oui, des jeux de voix, c'est ça.
Ouais. Oui, on ne cherche pas forcément à faire comprendre un texte. C'est plutôt pour la jouissance de...
De la sonorité.
Oui. Ouais.
C'est exactement ça. Ouais. Et la joie de la polyphonie aussi. Et puis, moi, j'ai découvert ce morceau grâce au festival Mars en Maroc. On avait fait venir dans le resto dans lequel j'étais à l'époque un ensemble, alors qu'il n'était malheureusement pas les Jeannequins, un ensemble qui s'appelait l'ensemble Calypso, et qui avait chanté quelques pièces, dont celle-ci, dans le restaurant. Et il y avait une beauté folle, en fait, de se retrouver là, dans ces chants, en fait. Cette pratique du chant qui était vraiment très liée au bistrot aussi, et au lieu enfin de restaurants qui n'existaient pas à l'époque, mais aux tavernes, des choses comme ça. Confrère Rameau, évidemment.
Et ils avaient également chanté du beau Tétain ?
Ils avaient chanté du beau Tétain.
Pas eu de toute éternité son intellect occupé de sa naissance aussi bien que de la vôtre. De dire pourtant que Dieu a plus aimé l'homme que le chou, c'est que nous nous chatouillons pour nous faire rire. Étant incapable de passion, il ne saurait ni haïr, ni aimer personne. Et s'il était susceptible d'amour, il aurait plutôt des tendresses pour ce chou que vous tenez, qui ne saurait l'offenser, que pour cet homme, dont il a déjà devant les yeux les injures qu'il lui doit faire. Ajoutez à cela qu'il ne saurait naître sans crime, étant une partie du premier homme qui le rendit coupable. Mais nous savons fort bien que le premier chou n'offensa pas son créateur au paradis terrestre. Dira-t-on que nous sommes faits à l'image du souverain être et non pas les choux? Quand il serait vrai, nous avons en souliant notre âme par où nous lui ressemblions effacé cette ressemblance, puisqu'il n'y a rien de plus contraire à Dieu que le péché. Si donc notre âme n'est plus son portrait, nous ne lui ressemblons pas plus davantage par les mains, par les pieds, par la bouche, par le front et par les oreilles, que le chou par ses feuilles, par ses fleurs, par sa tige, par son trognon et par sa tête. Ne croyez-vous pas en vérité? Si cette pauvre plante pouvait parler quand on la coupe, qu'elle ne dit?
Homme, mon cher frère, que t'ai-je fait qui mérite la mort? Je ne croyais que dans tes jardins, et l'on ne me trouve jamais un lieu sauvage où je vivrais en sûreté. Je dédaigne d'être l'ouvrage d'autres mains que les tiennes. Mais à peine en suis-je sorti que pour y retourner, je me lève de terre, je m'épanouis, je t'offre mes enfants en graines. Et pour récompense de ma courtoisie... Tu me fais trancher la tête!
Voilà le discours que tiendrait ce chou s'il pouvait s'exprimer. Et comme à cause qu'il ne saurait se plaindre, est-ce à dire que nous pouvons justement lui faire tout le mal qu'il ne saurait empêcher? Souvenez-vous donc, oh, de tous les animaux le plus superbe, qu'encore qu'un chou que vous coupez ne dise mot, il n'en pense pas moins. Mais le pauvre végétal n'a pas des organes propres à hurler comme nous. Il n'en a pas pour frétiller ni pour pleurer. Il en a toutefois par lesquels il se plaigne du tour que vous lui faites, par lesquels il attire sur vous la vengeance du ciel. Que si vous demandez, comme je sais que ces choux ont ces belles pensées, je vous demande comme vous savez qu'ils ne les ont point, et que tel, par exemple, à votre imitation, ne dise pas le soir en s'enfermant. Je suis monsieur le chou frisé, votre très humble serviteur, Chou Cabus. Thank you.
Après l'ode au tétin par les Clément Jeannequin, nous entendions l'apologie du chou par Benjamin Lazare, accompagné de Florence Bolton, dessus et basse de viol, Benjamin Perrault, luth, théorbe et guitare baroque. Donc, c'est un texte qui était entouré d'une pièce de Kapsberger et d'une autre de François Dufaux. Que vous dit ce texte? Que dit ce texte sur la cuisine? C'est un texte qui est signé Savagnin de Cyrano de Bergerac au XVIIe siècle.
Oui, c'est un texte, mais c'est un spectacle incroyable. Benjamin Lazare, de toute façon, enfin, c'est un acteur, un metteur en scène et un scénographe qui a ce talent en fait de pouvoir avec. Il faudrait, je ne sais pas s'il le rejouera, mais avec une chaise, un peu de lumière, il a réussi à nous faire presque monter dans la lune en fait. C'était fou, fou cette capacité comme ça à reproposer en plus le français ancien. Je voyais aussi, enfin, ce texte est magnifique en fait, la musicalité des mots, enfin, la drôlerie réelle, cette ironie pratiquée. Il y avait quelque chose comme ça d'hors du temps. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Marseille, toujours dans le cadre du festival Mars en Baroque. Il avait fait venir il y a 7 ou 8 ans. C'était tellement incroyable de franchir comme ça, d'être de l'autre côté du miroir. Vraiment, à un moment donné, se trouver vraiment presque en voyage pour la Lune et vraiment presque au XVIIe siècle. C'était un de mes plus beaux souvenirs de spectacle.
Et qu'est-ce qu'on mange avec ça?
On va forcément manger un tout petit peu de chou, évidemment, mais du chou à la moelle. Et puis, vu qu'il fallait remplir des fioles de rosée pour pouvoir s'élever jusqu'à la lune, on jouera aussi sur un jus un peu corsé, peut-être. Une pointe de pamplemousse, un peu d'acide. Et de la châtaigne, tiens.
Pourquoi?
Parce qu'elle va soutenir aussi bien le chou que le pamplemousse. Et qu'elle soutiendra bien, en fait, ce qu'on vient d'écouter, dans un petit bouillon léger.
Jean Grenard, Les Yeux Noirs. Quelle musique est-ce que vous faites écouter en salle, Emmanuel Perraudin?
Alors, quand j'ai le choix, ça, un peu. J'aime beaucoup le jazz manouche. Je trouve que ça peut vraiment accompagner un repas, en fait. Parce que, justement, il y a la pompe qui est là et qui rythme, de toute façon, et sur laquelle on pourra s'accrocher un tout petit peu, tout au long du... Jamais trop fort, de toute façon, non plus. Et quand j'ai le choix, parce que je n'ai pas forcément toujours le choix, en fait, quand je cuisine dans des restaurants, je n'ai pas forcément la main mise non plus sur aussi l'ambiance sonore de la salle. Mais quand j'ai le choix, le jazz et surtout la touche de Django, en fait, elle est importante.
Et par exemple, la somme de musique que nous avons écoutée ce matin ne pourrait pas forcément servir
pour un repas.
Pour un repas, quelque
non.
chose de trop intime.
Oui, enfin... c'est beaucoup trop intime, en fait. C'est d'ailleurs très bizarre, en fait, de se dévoiler et de dévoiler comme ça. C'est... Souvent, quand je parle de cuisine, je parle très peu de goût ou de ce que je fais, parce que partant du principe que c'est un langage, en tout cas, c'est le langage que j'ai choisi, en fait, d'utiliser à la fois pour m'exprimer, mais aussi pour me découvrir. Trop dévoiler de qui on est, c'est très compliqué, finalement. Il y a toujours le risque de cette mise en scène de soi, cette part de faux, cette part de... C'est la question de Martin Eden aussi sur la légitimité. Enfin, c'est toutes ces questions qui sont là. Et se dévoiler par le biais de la musique, je m'aperçois de choses en plus parce que vous avez, enfin, la sélection qui a été faite me fait prendre conscience de choses. Fait que à côté desquelles j'étais un peu passé peut-être, notamment sur la pesanteur parfois, ou peut-être ces lourdeurs premières sur cette interdiction première de la musique, qui cette absence parfois peut-être un peu trop de légèreté qui peut se ressentir aussi dans ce que je peux être au quotidien. Cette difficulté peut-être aussi à être plus aérien et plus léger. C'est ce que j'aime aussi en fait dans cette ville. Hein. C'est que dans cette ville de Marseille, c'est qu'elle nous pousse aussi à aller un peu au-delà, alors à nous remuer. L'heure et demie qu'on vient de passer déjà est bien remuante pour ça.
Est-ce que vous cherchez plus de légèreté en cuisine? Est-ce que vous...
Oui, je cherche avant tout de la légèreté. Je cherche vraiment avant tout la légèreté. Il y a toujours une note un peu plus grave, mais en fait, comme une rythmique, en fait, comme la pompe qui est là, mais qui doit pas se sentir. Tout doit être léger, comme cette photo, comme ces photos de plantes vertes et de fauteuil Louis-Philippe Art.
Qu'est-ce que ça veut dire être léger en cuisine ?
Ne pas se prendre au sérieux, ne pas se regarder cuisiner, ne pas être vraiment attentif au lieu dans lequel on se trouve. Au public qui va venir. Alors, moi, quand j'avais quitté la restauration traditionnelle, j'avais choisi aussi de prendre le risque de ne pas plaire, vraiment. C'est-à-dire que quand on est dans un restaurant, on a quand même une obligation première, c'est de satisfaire le besoin de clients. Et je voulais me libérer un tout petit peu, en fait, de ce rapport à des clients, plutôt chercher un public. Alors, peut-être que c'était un peu fat comme interrogation, mais j'avais besoin de ça, d'aller chercher des choses qui pouvaient vraiment remuer, d'aller interroger... Les souvenirs d'enfance, par exemple, je me souviens d'une discussion qui m'avait fait basculer, justement, qui m'avait fait prendre presque la décision de partir, d'une discussion avec une femme qui ne comprenait pas pourquoi j'avais remis en question la recette du gâteau de foie blanc, parce que son grand-père la faisait de telle sorte, et qu'il la servait avec un coulis de tomate, et que moi, que je la cuisinais dans un oursin, et que je la servais avec de la betterave et un peu d'absinthe, que ça lui paraissait vraiment toute une histoire qui n'était pas possible et que je revenais presque à tenter à la mémoire de son grand-père. Je ne pouvais pas le faire. Et ben je l'ai fait quand même malgré tout. Évidemment, il a fallu en parler. C'était bien d'en parler aussi de cela. Et puis c'est toujours léger finalement. Ça doit toujours rester un peu léger. La cuisine, ça doit pas non plus se prendre trop au sérieux. Toujours ce grand écart en fait entre une extrême légèreté et de la profondeur.
Et Marseille ? Est une ville légère ou sérieuse pour vous ?
Alors, en fait, c'est une ville qui a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement légère parce qu'on regarde la ville comme avec le regard un peu, une ville un peu pagnolesque, avec le son de la galéjade, une ville qui a le verbe haut. C'est William Cobb qui dit ça, que cette ville a le verbe haut parce qu'elle a le sens du tragique. Et oui, cette ville rit. Elle rit vraiment profondément. C'est une ville joyeuse qui bouscule en fait tous les codes. Elle est mal élevée et c'est tant mieux et c'est très bien. Et en même temps, elle est tout ça parce que justement, elle a le sens du temps qui passe. Elle a le sens réel. Vous savez, c'est une ville, c'est drôle, hein, c'est une des plus anciennes villes de France, si ce n'est la plus ancienne. Il y a très peu de traces archéologiques en fait de son passé qui sont encore existantes aujourd'hui. Parce que Marseille réinterroge en permanence en fait... sa place dans l'histoire, dans son déroulement, et elle sait que la simple contemplation en fait du temps qui passe en fait, elle peut être mortifère. Elle est toujours tout est toujours rebattu, et pourtant malgré tout, c'est une ville dans laquelle on peut retrouver des traditions qui sont extrêmement là. Par exemple, vous savez, on va bientôt arriver au moment des centons. Alors on peut regarder ça comme avec tout ce folklore autour de la crèche, et c'est quelque chose d'extrêmement important, cette attention autour de la crèche, parce que c'est le souvenir en fait de vieux cultes solsticiaux méditerranéens, plurimillénaires, encore vivants dans cette ville. Ça commence avec l'ouverture du marché des Santons. Ça se terminera avec la procession à la chandeleur derrière la Vierge Noire pour aller jusqu'à manger les navettes et aller jusqu'à à Saint-Victor. Et tout cela qui a l'air en fait d'être un peu du folklore, est quelque chose qui nous ancre, qui est des monuments plus grands que de l'airain, en fait plus profonds, plus durables.
Cheveux de ma sœur, capturés par ma main. Fallait pas qu'elle m'embête, la faut qu'on se console. Son sourire sous ses larmes, j'y dirai que je l'aime demain. En attendant, frangine, nos joies creusent des rigoles. Les 10 balles à bonbons, piquées à ma maman, à la bourse de l'amour, font une fortune d'un arrêt. Son cahier à chansons, chanté de temps en temps. Je m'en foutais bien, j'avais tout et les miens. Les soirs de réveillon, on osait s'embrasser. M'en fous du comment, Père Noël, faut voir ce qu'on était beau. Et les dimanches d'ennui, mon père me faisait jouer. Et comme on dit par chez nous, j'ai du sang, j'ai un lieu. C'est du sang. C'est pas de l'eau. Je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue. Je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours. Plus tard, des amitiés qui s'oublient doucement m'ont bousculé la tête. On s'est encanaillé, on fumait en cachette. T'as vu le voyou, le grand? On trichait à l'école, même pendant les dictées. On a dragué les filles, on en a eu quelques-unes qui m'ont appris des trucs. J'aurais jamais cru ça. J'ai su qu'un petit derrière, ça pouvait être une dune. Si tu mélanges des lèvres, bah t'as le cœur qui bat. On s'est construit le monde avec nos regards neufs. Lendemain, un autre venait le remplacer. On avait tout compris, de la poule aux deux neufs. Mes frères de petits grands, vous m'avez dessiné. Et je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue. Je ne rattrape rien, et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Et je cours. Et quelques pas plus tard, je suis tombé d'amour pour une pape pareille. Qu'est-ce que tu me faire pousser? Rien que d'y re-rêver, je crois que la vie, je suis pour. Nos rires sont ma fierté, on a tout inventé. On a appris nos corps, on a mêlé nos têtes. Et on s'est ressemblé des jumeaux amoureux. De la peur de grandir, on a fait une fête. On avait plein pour nous, et un peu moins pour nous. Et si les ans, ben voyons, nous ont refait étrangers. Je compte en moi nos dizaines de milliers d'heures. Alors c'est pas toi qui m'apprendras à langer. Porte-toi bien, petite madame. Je vous rends au bonheur. Je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue. Je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours.
Loïc Lantoine and the Very Big Experimental To Be Free Orchestra. Je cours. Est-ce que c'est une ville où on court ou on marche, Marseille?
C'est une ville où on court et où on prend le temps en même temps. Et on va dans l'autre sens de la Terre, ça c'est une certitude. ça c'est certain. C'est même une des particularités. C'est-à-dire que il y a cette force-là d'être toujours là où on n'attend pas la ville, en fait. Et elle a toujours à la fois 15 coups d'avance, 10 coups de retard, mais peu importe, elle est unique.
Un grand merci Emmanuel Perraudin d'être venu vous confier dans Musique et moi ce matin. Où est-ce qu'on peut venir goûter votre cuisine dans les semaines qui viennent?
Eh bien, en ce moment, on peut goûter ma cuisine dans un restaurant qui s'appelle le MX à Marseille, au Doc. Et puis jusqu'à la fin de l'année, c'est ça. L'année prochaine, dans d'autres événements, mais
Événements musicaux aussi.
Des événements musicaux également.
Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à ce Musique et moi. Benjamin Perru, Olivia Branger et Laure Jung-Lancré pour la technique. Guillaume Rialan, chargé de production. Claire Lagarde pour la réalisation. Attaché de production, Flora Sternadel et Nelly Portal. Grand merci au Conservatoire Barbizet et à vous tous qui êtes venus assister à ce Musique et moi. Profitez encore jusqu'à ce soir de notre antenne marseillaise sur France Musique, 42e rue. En direct avec Laurent Vallière, la tribune des critiques de disques aussi cet après-midi. Et puis Carrefour de la création ce soir consacré entièrement à Marseille. Très bonne journée sur France Musique. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi.
À bientôt, merci.
À réécouter sur francemusique.fr.